France Inter.
On peut connaître quelqu'un à partir des produits de beauté qu'il ou elle utilise, ses crèmes, son anti-rides, son parfum. Anne Brochet le prouve dans un nouveau livre « L'armoire de vie » chez Albin Michel. Elle dévoile sa propre vie à partir des souvenirs d'un lieu intime, la salle de bain, et l'armoire qui s'y loge. Bonjour Anne Brochet.
Bonjour Vincent.
Nous parlerons de l'armoire de vie, de vous et de création et de travail avec votre invité qui est un ami, j'ai vu que vous rigoliez bien ensemble, metteur en scène, comédien, directeur du Théâtre National de Bretagne à Rennes. Je salue Arthur Noziciel.
Bonjour.
Vous avez dirigé Anne Brochet, Arthur, plusieurs fois et vous nous direz entre autres ce qui se trouve peut-être dans votre armoire de toilette. J'ai hâte de le savoir. Le grand atelier, ce sont aussi des conseils culturels. J'évoquerai un documentaire d'Alain Fleischer sur Brancusi, le sculpteur exposé au Centre Pompidou à Paris, et je vous ferai découvrir un jeune homme sur Instagram, surnommé Grosso Modo. Il se balade dans les villes, filme des scènes insolites du quotidien et les commente avec une poésie vraiment pas banale.
France Inter. Le grand atelier. Vincent Josse.
Vous serez sans doute nombreux à voir la rétrospective Brancusi au Centre Pompidou, mais plus nombreux encore à ne pas la voir puisque tout le monde ne vient pas à Paris. Pour goûter à la sculpture de l'artiste roumain qui a passé la majeure partie de sa vie en France à partir de 1904, eh bien, regardez le documentaire que lui consacre sur Arte.tv Alain Fleischer, romancier, poète, cinéaste, photographe. La caméra de Fleischer s'attarde dans l'atelier du sculpteur qui, depuis de longues années, a été déplacé sur le parvis du Centre Pompidou. Fleischer semble subjugué par cette fabrique où Constantin Brancusi passe le plus clair de son temps au début du XXe siècle à sculpter et à faire danser ses sculptures. Cet artiste à la barbe longue qui fut assistant de Rodin et qui a fait avancer la sculpture du réalisme à l'abstraction aimait follement le mouvement. Adepte de photos et de cinéma, ami de Man Ray et de Marcel Duchamp, il pose souvent ses œuvres sur des socles tournants pour les observer sous différents angles. La lumière associée à la forme en montre des aspects changeants et surtout pas figés. Il soigne la sculpture autant que le socle sur lequel il la pose. Le bois côtoie amoureusement la pierre blanche ou l'argent et Brancusi laisse entrer des visiteurs dans ce qui ressemble à une installation, à une œuvre en soi, comme l'explique cette spécialiste d'art moderne, Ariane Coulondre.
Brancusi était très attaché à accueillir tous les visiteurs qui venaient. Les admirateurs, les admiratrices sont très nombreux à venir toquer à la porte de son atelier, un passeron saint. On a de nombreux témoignages des visiteurs qui étaient fascinés par cet espace. On connaît les mots de Man Ray qui disait « Entrer dans l'atelier de Brancusi, c'est pénétrer dans un autre monde ». Il y a cette dimension d'élévation, de transport, d'émotion. Quand on arrive dans l'atelier, il y a cette blancheur, cette clarté qui est apportée par la lumière naturelle et par la verrière.
Brancusi propose même à des danseuses célèbres de se produire dans son atelier, devant sa caméra, et nous voyons ces films où des corps bougent avec grâce, donnant aux œuvres, au marbre, au plâtre, une impression de vie. Regarder ce documentaire, c'est découvrir aussi un artiste d'avant-garde, amoureux des matériaux et des objets de son pays d'origine, la pierre, le bois. C'est voir enfin à quel point son œuvre est cohérente. On retrouve au fil de sa carrière son goût des visages posés sur le côté, comme sa muse endormie en bronze, sa répétition du motif du baiser, ce couple face à face qui s'embrasse, sa fascination de l'oiseau qui s'envole ou de la sculpture ascensionnelle qui semble grimper jusqu'au ciel. Brancusi, les métamorphoses de la sculpture, c'est le titre du documentaire d'Alain Fleischer en replay sur Arte.tv. Et voici sur Inter Black Pumas dans le grand atelier, le duo du Texas. Black Pumas, Ice Cream.
Le Grand Atelier. Vincent Josse. Sur France Inter.
Je sens que vous enviez mon accent anglais, Anne Broget.
Mais à quel moment?
Parce que j'ai dit ice cream.
Oh, pardon.
Vous avez vécu aux États-Unis?
Oui.
Vous êtes devenue bilingue ou pas?
Non.
Non?
Je parle très bien anglais.
Pourquoi vous êtes revenue?
À quel moment? Je suis revenue deux fois.
à cause de vos amours?
Deux fois. Toujours pour des raisons d'amour.
Toujours pour des raisons d'amour, oui. Anne Broget, écrivaine, comédienne, née à Amiens, loin des États-Unis, mais pas très loin de Paris, une heure et demie.
Vous rigolez, c'était super loin, on n'y allait jamais.
À l'époque, c'était quoi, deux heures?
J'y suis allée à 15 ans à Paris.
Oui. Et vous vous souvenez ce que vous veniez faire à Paris à 15 ans?
Oui.
Alors, dites-nous.
À 15 ans, même 16 ans, je suis allée à Paris avec mes économies, m'acheter Place des Victoires, une paire de flamenco Robert Clergerie. J'avais vu la pub dans Elle Magazine.
Qu'est-ce qu'on ressent quand on arrive à 15 ans en provenance d'Amiens à Paris?
On se dit que c'est là où on veut connaître la liberté. On se dit que ça sera le lieu de la liberté.
Parce qu'Amiens était le lieu de la famille et de la scolarité?
Oui, tout simplement.
Mais vous y faites déjà une première intrusion dans la vie libre quand vous entrez au conservatoire d'Amiens?
Oui.
Vous avez ce sentiment d'être un petit peu en cours de libération?
Un tout petit peu.
Et puis vous arrivez à Paris, cours Florent, conservatoire, et le cinéma va happer très vite Anne Broget, quand on dit encore aujourd'hui. Mais oui, quand on dit encore Anne Broget aujourd'hui, on pense à ça, et ça c'est pas rien, c'est Cyrano de Rapneau avec Depardieu.
Voilà, j'aime quelqu'un qui ne le sait pas d'ailleurs. Pas encore. Mais qui va bientôt le savoir s'il l'ignore. Un pauvre garçon qui jusqu'ici m'aima timidement, de loin, sans oser le dire. Laissez-moi votre main, voyant là la fièvre. Mais moi, j'ai vu trembler les aveux sur sa lèvre. Et figurez-vous, tenez que... Justement, oui, mon cousin. Il sert de votre régiment. Puisqu'il est cadet de votre compagnie. Il a sur son front de l'esprit, du génie. Il est fier, noble, jeune, intrépide, beau.
Beau?
Quoi qu'avez-vous?
Moi? Rien. C'est ce bobo.
Cyrano.
92.
Qu'est-ce que ça vous évoque?
J'aurais pas dit beau de la même manière.
Ah, aujourd'hui, vous diriez les choses très différemment. Parce que moi, je trouve que vous avez déjà beaucoup de métiers, là. Et est-ce qu'à ce moment-là, vous vous sentez libre, puisque vous dites que vous êtes venu conquérir, chercher un bout de liberté, voir la liberté à Paris?
Ah, mais je voulais marcher dans les rues de Paris, moi. C'était ça que je voulais faire.
Et
je voulais être...
La liberté, c'était ça?
Oui, marcher dans les rues de Paris. Prendre le métro avec mes tickets, tout ça.
Et c'est ce que vous avez fait?
Oui. J'étais folle de joie.
Il y avait aussi, peut-être aussi, parce que vous êtes très romanesque, le désir d'être amoureuse à Paris.
Peut-être, je m'en souviens plus.
Pas plus
non,
que ça.
Non, j'étais amoureuse de Paris.
Ça suffisait.
Oui, j'étais survoltée.
Est-ce que c'est resté ça en vous, même si vous avez bougé? Je parlais des États-Unis à un moment de votre vie, et puis de vos retours, de vos de vos épopées.
Qu'est-ce qui m'est resté survoltée?
Non, cette fascination de Paris.
Dans l'autre jour, avec Arthur, on s'est promené, tu sais, il y a deux semaines, on s'est promené à minuit après le cinéma, et vraiment, on était très très contents. C'était très beau, comme avant.
Arthur Nozessiel, il y avait aussi ce désir parisien?
Oui. Alors moi, j'étais vers les Ulis, j'étais au lycée aux Ulis, c'était un autre univers. Mais c'était pareil, il fallait une heure et demie pour arriver à Paris.
Donc une petite expédition.
Bus, RER, etc. Ouais, donc, et on arrivait dans le trou des Halles. On arrivait avec le RER dans le Forum des Halles, qui était un endroit assez inquiétant, un peu anxiogène, mais plein de promesses, parce que aussi plein de gens bizarres. Donc il y avait, c'était pareil, c'était j'avais 14-15 ans peut-être, et c'était, moi j'étais très obsédé de cinéma, et donc c'était aller là pour aller voir des films, puis on rencontrait des gens un peu étranges, il y avait ce cinéma qui s'appelait le Cinéma Villéal, où il y avait que des gens bizarres qui allaient là. Des gens très âgés, un peu dingues, des drogués, c'était un...
Des gens que vous n'aviez pas rencontrés encore?
Non, et donc tout ça était la promesse d'un avenir intéressant, Parce que, je sais pas, j'avais pas peur, mais d'un seul coup, on se dit, ah, ça va être fantastique, il va se passer des trucs très inattendus, en fait.
Est-ce que vous aviez, puisque vous aviez sans doute envie d'être cinéaste à l'époque,
oui,
vous avez fait
exactement.
Des études de cinéma et avant d'art plastique, est-ce que vous aviez le désir de filmer le réel, par exemple ces gens-là?
Ah non, pas du tout. Non, j'étais un peu comme Anne, peut-être dans une rêverie de cinéma, vraiment.
J'avais fiction.
Aussi le poster d'Adèle H.
Ouais.
Dans ma chambre.
Mais tu voulais pas te coiffer en bandeau.
Non, j'avais déjà une coiffure en bandeau. mais voilà, j'étais plutôt dans une rêverie d'un cinéma Truffaut. J'aimais beaucoup les films de Truffaut, des gens comme ça. Donc j'étais dans un fantasme de cinéma qui avait plus à voir aussi avec les acteurs et les actrices d'ailleurs, et sûrement des histoires assez romanesques, oui.
Dans l'armoire de vie d'Anne Brochet, Anne Brochet, vous faites allusion à deux reprises d'ailleurs au choc de vos 13 ans que vous tenterez ensuite de transmettre à votre fille, une série télé en noir et blanc si je ne m'abuse, non? Non, pas du tout en noir et blanc.
Pas du tout.
J'étais en train d'hésiter, qui se déroule durant la guerre 14-18.
Oui, les Dames de la Côte.
Nina Companèse invente effectivement le destin de trois familles bourgeoises et de leurs domestiques, les Dames de la Côte. Première apparition d'une inconnue brune aux yeux noirs et au parler si singulier, c'est Fanny Ardant. La voici dans une scène avec Francis Huster.
Bonjour Fanny. Je suis allée en ville chercher le journal, le facteur l'a pas apporté ce matin.
Vous ne pouvez pas passer la journée sans lire.
Aujourd'hui, je m'en serais passé.
Ah, pourquoi?
L'archiduc d'Autriche et sa femme ont été assassinés à Sarajevo.
C'est affreux. Vous les connaissiez? Qu'est-ce qu'il y a? Si vous vous moquez de moi, dites-moi au moins pourquoi.
Je me trompe sûrement, mais en lisant ça tout à l'heure, ça m'a fait très peur. Il est impossible que cet attentat n'ait pas des suites graves. Je ne veux pas vous attrister, vous aviez l'air si gai. D'où venez-vous?
Je vais vous dire une chose horrible. Je suis heureuse. Et je n'arrive pas à être triste à l'idée que les Serbes et les Autrichiens se fassent la guerre. Est-ce que vous trouvez cela monstrueux?
Vous souriez avec une petite émotion, Anne Brochet, à l'écoute de la voix de Fanny Ardant.
Oh, à l'écoute de la voix des deux, ils sont
divins. Et de ce
divins.
Duo. On était un peu fascinés par eux.
Moi, j'étais fascinée par tous.
Il y avait Edwige Feuillère, Denise Gray,
Martine Chevalier.
Evelyne Buil, fantastique, ouais. Bruno Devolder, avec ses narines frémissantes.
Qu'est-ce que ça a provoqué en vous? Est-ce que votre vocation de comédienne a pu naître de ça, entre autres?
C'est possible.
Oui?
Oui. C'est très possible, parce que j'avais envie de vivre ce qu'ils vivaient tous. Je voulais même être vieille et jouer à de la réussite, tout ça, comme Edwige Feuillère. Je voulais être un homme de 50 ans, qui ne sait plus qui il est, comme cet extraordinaire François Perrault, voilà.
Oui, François Perrault.
Voilà. Oh, je pense que cette émotion que j'ai eue, cette empathie totale pour tous les personnages, c'est possible que ça ait déclenché quelque chose de mon envie d'être comme eux, à leur place.
Et puis vous aimiez aussi son nom, Fanny Ardant, vous aimiez le nom d'Isabelle Adjani de Catherine Deneuve, et pas le vôtre, Anne Brochet. Vous le rejetiez un peu, vous trouviez que c'est...
Non, je le rejetais
ce nom de poisson,
pas,
c'était
très
pas...
masculin. Et puis je me disais, ouais, quand j'ai qu'à être actrice, comme ça je pourrais changer de nom. Et puis après j'ai oublié, et puis après j'ai regretté. Et puis après je dis, non, il faut que je sois digne du nom de mon père. Et puis bon, c'était compliqué, finalement j'en ai fait un film. Et puis maintenant je sais que ça va très bien avec ce nom. Mais j'ai assumé mon sentiment d'ingratitude vis-à-vis de ce nom. Non pas poissonneux, mais c'était un nom un peu carnassier et austère. Mmh. Qui n'arrangeait pas mes affaires.
Ça n'a pas empêché le cinéma de te faire appeler à Anne Brochet très vite. C'est ce que je disais tout à l'heure. Mmh. Vous tournez avec un nombre de cinéastes très impressionnants. Ça commence avec Jean-Louis Comolli, disparu il n'y a pas très longtemps, qui était un grand critique de cinéma, un réalisateur, un théoricien du cinéma. Il y a Claude Miller aussi, qui pour la télévision s'intéresse à vous. Et puis vous rencontrerez aussi devant une caméra Nina Companèse.
Oui, merveilleuse. Merveilleux moment. Tout à fait... c'est comme si je l'attendais depuis mes 13 ans.
Ah oui.
Oui.
Un rendez-vous.
Oui.
Et à la hauteur de ce que vous attendiez?
Vous savez, une chose extraordinaire avec Nina Companèse que j'ai vécue. Elle disait jamais action, moteur, action, allez-y. Elle disait jouer. Mais c'est la seule. Il y avait. C'est la seule. Personne qui invitait les acteurs à jouer. Et en fait, dire à un acteur « joue », ça lui permet d'être sincère et ne jamais oublier qu'il joue. Et c'est, ça met immédiatement dans une émotion juste.
C'est bizarre que les autres ne le fassent pas. Ils restent techniques.
Elle, c'est comme ça qu'elle avait envie de s'adresser à ses comédiens et de leur donner le ton.
Sinon, on dit action.
Action.
Et puis moteur.
Moteur.
Action.
Ça tourne, action. Ça fait rêver.
C'est un peu la jonction, tu sais, qui te bloque sur place. En fait.
L'armoire de vie, nouveau roman d'Anne Brochet chez Albin Michel, vie au pluriel, parce que vous vous rendez compte que depuis votre prime enfance, cet objet qui renferme de quoi se nettoyer, de quoi se faire belle,
est beau, a
énormément compté pour vous. Comment vous êtes dit, je peux me raconter et je peux écrire un roman un certain nombre de pages, à partir d'une armoire de toilette. Est-ce qu'il y a eu un déclic ?
Oui, un jour, je suis rentrée dans la salle de bain de l'armoire la salle de bain de quelqu'un qui n'était plus. C'était la même armoire de toilette que chez mes parents. C'est la même, ouais, vraiment. Et puis en fait, il y avait dedans beaucoup d'objets de mes parents ou beaucoup d'objets que nous utilisions dans la famille, la crème Nivea, la brosse à dents, le signal, tout ça, les bandelettes. Et ça m'a beaucoup frappée. Je dis, ah, c'est quand même vraiment un très très bel objet. C'est comme un petit théâtre, c'est comme une boîte à musique, c'est comme un confessionnal. C'est bien bien des choses, cette armoire à trois portes.
Ouais.
Et je m'étais dit, un jour, je ferai peut-être des photos autour d'armoires de toilettes.
Ce que vous avez peut-être commencé à faire, oui.
J'ai fait quelques photos d'armoires de toilettes et puis après, j'ai rien fait. Après, je suis partie sur d'autres projets. Et puis, pendant le confinement, je me suis dit que c'était le moment de... J'étais vraiment rien qu'à moi. Comme je parle beaucoup des petits moments rien qu'à soi. Et là, j'étais vraiment rien qu'à moi. Et je me suis dit que c'était peut-être le moment de commencer à écrire sur...
Vous avez lu le roman L'armoire de vie de votre amie Anne Brochet. Je vous demande pas d'en dire du bien parce que voilà, mais de me dire vraiment ce que vous en pensez. J'ai l'impression vraiment que la démarche est hyper proustienne et assumée comme telle. Ce qu'on trouve dans une armoire de toilette pour Anne Brochet sont des madeleines de Proust.
Ouais, mais ce qui est plus étonnant, c'est que comment elle arrive à donner des perspectives à ses parfums, à ses objets, à ses savons, à ses marques. À ces marques de produits.
Oui.
Et comment, d'un seul coup, c'est... En fait, ce qui est en plus très, enfin, très émouvant, c'est, je trouve, on pense un peu aux choses, par exemple de Pérec ou Annie Ernaux, mais ils sont comme... C'est comme si ils regardaient de l'extérieur. Et donc, oui, ça raconte quelque chose du monde et de la société et de la classe sociale, etc. Mais dans le livre d'Anne, c'est comme elle dit, c'est un moment à elle et sur elle. Et donc, on est à l'intérieur de quelque chose qui fait raconter une vie à travers des objets auxquels on prête assez peu d'attention. En tout cas, on les lit pas comme des vecteurs d'imaginaire. Et là, c'est ça qui se passe, c'est des horizons à chaque fois.
C'est vrai, par exemple, on va prendre un exemple au son, comme on dit en radio, on va écouter la pub au Bao.
J'allais le dire, parce que...
Hein, la pub au Bao dans les années 80, mais ça évoque plein de choses.
Les premières notes, on va tous...
À Anne Brochet, puis à nous aussi, j'avais oublié, moi, cette pub.
Qu'est-ce qui fait du bain au Bao un bain si doux? Son parfum riche et fleuri, qui parfume l'eau et la peau. Sa formule adoucissante et nacrée, qui fait l'eau plus douce et laisse la peau douce et reposée. Au Bao, soyez douce pour votre corps.
Voilà, tout le monde la connaît. Anne Brochet, par exemple, qu'est-ce que vous viviez à l'époque avec cette pub? Qu'est-ce que vous faisiez? Vous alliez prendre votre bain dans une robe de satin qui tombait, votre corps nu glissé dans l'eau bleue? Où je fantasme. Vous aviez envie de revivre un peu tout ça quand même.
Je vais vous dire très très précisément, je me disais quand je serais une femme, je serais cette femme-là.
Voilà. Parce qu'elle avait quoi?
Elle avait tout pour elle. Elle avait l'autonomie. Elle avait le plaisir rien qu'à elle. Elle avait le luxe suprême qui était d'avoir une baignoire transparente.
Des cheveux.
Hein?
Des cheveux.
Des cheveux.
Elle avait des très longs cheveux, comme ça.
Non, elle avait un tout petit chignon serré. Non,
oui, il y avait ça, puis il y avait la... Elle défait, bon oui.
Mais non, ça c'est... Tu fantasmes, Arthur.
Ah, oui, à aucun moment... Moi, je me suis vue avec des
cheveux. Non, parce qu'elle ne lâche jamais les cheveux.
Il doit confondre avec la pub Oil of Olaz. Parce que c'est, elle est aussi présente, cette pub. Il y a aussi la, l'évocation de Tony Gencil. J'ai absolument pas le droit de dire des noms de marques. Il y a Loulou aussi, vous, avec votre petit frère. Vous jouiez cette pub.
Non, Loulou, je l'ai vécu moi-même toute seule en étant à Paris. Non, avec mon petit frère, avec mes frères, on faisait Oil of Olaz et Tony Gencil, entre autres. Hein, comment ça s'appelait, le Clérazil, là.
Oui.
Je l'adore, Marlène. Quand je la verrai, je lui dirai, oh là là, je lui dirai rien du tout. Quelle catastrophe, ma peau. Ding, ding. Oh, c'est Marlène.
Je suis pas là.
Et vous pouvez nous faire, après, je vous promets, je vous demande plus de faire ça, mais est-ce que vous pouvez nous faire Loulou?
Ah ben non.
Ben si.
Ben elle dit rien.
Ben elle dit quand même quelque chose. Le monsieur lui dit, oui, donc Loulou, c'est une pub pour un parfum Cacharel. Loulou, Loulou, Loulou.
Vous n'avez pas vu Loulou?
Non.
C'est ça?
Il dit, vous n'avez pas vu Loulou? Et vous, elle, et vous
c'est
répondez,
moi.
Voilà, Loulou, c'est moi.
Ah, Loulou,
vous, le faites
c'est
très,
moi.
Vous le faites très mal. Vous le faites beaucoup mieux quand vous l'écrivez.
J'ai jamais réussi à être une vraie Loulou.
Et vous l'avez trouvé à Paris? Enfin, ça s'est produit à Paris, vous disiez, là?
Non, mais je raconte dans mon livre, ce qui est peut-être absolument faux, mais c'est pas grave, c'est que je voulais être une actrice qu'on suit dans les rues de Paris, et moi, j'étais trop affairée à mon travail pour m'occuper de toute affection masculine, et puis, ben, c'est tout le contraire.
On va écouter une deuxième chanson, Anne Brochet. J'ai choisi Christophe parce qu'il avait composé la musique d'un film de Sophie Filière, disparu en 2023, Arrête ou je continue, film dans lequel vous jouiez aux côtés de Mathieu Amalric et Emmanuel De Vos. Avec Valentine Chedebois, on a choisi de et par Christophe comme un interdit.
Cavalière me fait tanguer. ses bras et mon chavire d'un seul baiser. Me fait couler, maître nageur qui tombe à l'eau comme un interdit. Je m'abandonne dans une danse où elle conduit. De préférence, je me laisse faire. Amour fou, ma cavalière me fait tanguer entre ses bras. Je m'abandonne sans interdit.
Anne Brochet, si vous deviez perdre un sens, que je ne vous souhaite pas, ce ne serait certainement pas l'odorat que vous citeriez en premier, parce qu'on le sent, on le devine primordial dans votre histoire et dans votre vie, depuis l'enfance.
C'est assez primordial, mais ce qui me fascine, c'est la mémoire de, de l'odorat.
Qui est directe. Oui. Et vous, vous écrivez ce que le parfumeur Guerlain, Jean-Paul de son prénom, ressentait et ressent lui aussi.
Quand je repense à l'odeur et à ce que l'odeur, à ce qu'elle a eu comme importance dans ma vie et ce qu'elle m'apporte comme souvenir, je revois immédiatement la salle de bain de ma mère et un immense flacon d'eau de Cologne cachet jaune. Quand je pense au cachet jaune, je vois immédiatement la salle de bain de ma mère, je vois ma mère. Je pense que l'odeur est la forme la plus intense du souvenir et dès que je sens une odeur, je visionne quelque chose.
C'est ça, en fait, le point de départ du livre d'Anne Brochet.
Le point de départ...
Bah, d'une certaine manière, oui.
Le point de départ du livre, c'est aussi la fermeture du livre. C'est le premier souvenir que j'ai, c'est la poudre chlorane. Oui. Le talc pour bébé chlorane, donc je suis petite, puisque c'est celui qu'elle utilise, que ma mère utilise pour mon petit frère, qui a 3 ans et demi de moins. Donc j'imagine que je dois avoir 3 ans et demi, un peu plus, peut-être 4. Et c'est la première odeur qui me saisit. Et le récit se conclut sur cette même odeur, puisque...
Il a traversé 3 générations,
oui,
ce talc.
Exactement. Hein, oui.
Vos enfants, vous les avez talqués avec ça. J'allais dire ce parfum.
Oui, hein, oui.
Et votre petite fille, si je ne m'abuse,
oui,
également.
Oui.
Il y a beaucoup de couleurs et beaucoup de parfums dans ce roman qui n'est pas qu'un catalogue, qu'une suite de noms, de pubs. Au contraire, à chaque fois, si vous citez un parfum ou une crème, c'est pour dire l'effet qu'il a eu sur vous et qu'il a encore aujourd'hui. Vous parlez notamment de vos amours et de vos amoureux, de vos rencontres. L'un des amoureux s'en va, il laisse une crème dans l'armoire de toilette et vous allez, je trouve ça très beau, utiliser cette crème, la porter, parce que ce sera le souvenir de cet homme.
Et pour pas jeter.
Aussi.
Oui, parce que c'est aussi sur...
Vous êtes moins romantique que moi.
Non, mais c'est un récit, excusez-moi, non, je suis très romantique comme vous.
Oui.
Mais c'est aussi le rapport à l'objet, l'objet qui se consomme trop rapidement, celui qui n'en finit pas de finir, celui qui ne va peut-être plus exister, ces flacons en plastique, ce rapport à je le jette, je le garde, je le remplis, je le recharge. Ça, c'est aussi ce qui se passe dans une armoire de toilette, c'est aussi ce bruit-là du temps qui passe.
Mais c'est essentiel, le temps qui passe dans votre roman, parce que ça va de la petite fille à la grand-mère que vous êtes, entre autres, mais vous n'êtes pas qu'une grand-mère, Anne Brochet, à la cinquantaine. J'ai l'impression de voir mes mères, c'est-à-dire votre arrière-grand-mère. J'ai l'impression de connaître vos grands-parents, votre grand-mère, mamie. J'ai l'impression de connaître vos parents, j'ai l'impression de connaître un peu les hommes que vous avez aimés. Je dis je lecteur, hein, parce que je vous connais pas en dehors de ce que vous avez fait au théâtre et au cinéma. C'est une vraie intrusion dans votre vie intime, voire vie privée, que vous osez par écrit.
C'est un partage.
Je trouve que vous êtes courageuse et authentique aussi. On a l'impression qu'avec un stylo ou un ordinateur, vous vous sentez dans une obligation de vérité ou d'authenticité.
Non, je ne me sens pas dans l'obligation du tout, mais je suis très heureuse que vous ayez rencontré mes mères.
Oui.
Oui.
Parlez-nous un peu d'elle et de ses parfums, peut-être, de ses odeurs et de ses objets, parce que là, vous parlez des objets de mes mères.
Oui, oui, je parle de sa coiffeuse parce que je la connaissais peu et j'ai les souvenirs de ça, de plus de l'odeur de sa maison que de. Elle avait pas de salle de bain, donc c'était un moment pour pouvoir parler d'elle, justement de ce que je n'ai pas perduré, des gestes de la toilette, de ces moments rien qu'à elle que j'ai pas perduré en héritant de sa cruche et de sa vasque. J'ai pas répété son geste, mais c'est vrai que c'était un. Je me suis étonnée de. Pas étonnée, mais je me suis dit, en fait, mes mères, quand elles faisaient sa toilette, elles prenaient vraiment le temps, même si c'était une maraîchère qui avait. Le temps était compté, mais elle prenait son temps. Voilà.
Le temps qui passe, vous le cernez aussi avec vos différentes coupes. Il y a les franges, il y a les couettes.
Je suis revenue à ma frange de mes 14 ans.
Oui, vous avez une petite frange. Oui. Il y a les tresses aussi, vous pourriez faire ça à la soixantaine, revenir aux tresses. Mm. Non ? Ce sont des marqueurs d'une époque et ce sont des marqueurs d'une vie aussi, les coupes.
Oui.
Je n'avais pas réalisé à ce point-là avant de vous lire. Et le temps, c'est aussi parler de votre vieillesse qui arrive comme à nous tous, ce temps qui passe. Et ça m'a fait penser à Annie Girardot dans « Traitement de choc » d'Alain Gessois.
Les rides, chaque trait qui se marque davantage, qui devient comme la caricature de vous-même. Et derrière ces signes, l'angoisse, la peur de vieillir, la mort. Je me croyais différente. Je ne faisais pas attention à moi. J'étais invulnérable. Et puis ça m'est tombé dessus. Maintenant, je suis comme les autres. En tout cas, je les comprends.
Du vieillissement, Anne Brochet, dans ce roman, L'Armoire de vie, encore une fois chez Albin Michel, vous parlez et vous racontez qu'à 43 ans, vous avez essayé le Botox, et puis que vous vous en voulez d'avoir fait ça, que c'était pas... Si, vous dites que vous, peut-être vous
en voulez. Oui, j'ai honte, je sors avec un châle et je vais me cacher dans un cinéma, voir la vie des autres. Heureusement, ça durait 3 heures.
D'où vient cette honte?
Non, mais parce que j'avais une bouche tellement énorme que je dis, mon Dieu, j'ai franchi le... J'ai passé le mur du son, quoi. J'aurais jamais dû. Je pourrais jamais revenir en arrière. Ça y est, je suis aussi rentrée dans l'angoisse du temps sur le visage. Ça y est, j'ai enclenché le...
Que les comédiennes ont toutes.
Les comédiennes et les... je pense chaque être humain, là.
Et vous avez décidé de poursuivre sans recours, soit aux piqûres, soit à la chirurgie esthétique.
Poursuivre ma vie.
Mais oui, et votre carrière.
Ben oui.
Ça vous fait sourire, mais il y a plein d'actrices qui font appel à ça.
Mais c'est pas, il y a pas que des actrices, il y a beaucoup d'êtres humains qui sont en souffrance de vieillir. Il y a des femmes en souffrance de vieillir, des hommes en souffrance de vieillir.
Et comment vous échappez à ça ?
Ben j'écris.
Oui.
Donc c'est une façon de me débarrasser un tout petit peu, et c'est aussi une façon de partager, et c'est aussi une façon de réunir, qu'on se réunisse un peu entre les lecteurs et moi-même dans un petit abri de réconfort, de pas se sentir seul.
C'est une sorte d'onguent, quoi, l'écriture.
Pour moi, non.
Non.
Non, non, c'est juste, c'est un partage. C'est-à-dire, j'aime aller assez loin dans l'écriture pour partager.
Vous avez une amie que vous avez dirigée, je crois, au moins à 2 reprises, Arthur Nosiciel en face de vous, là, Anne Brochet. Il y a eu Beckett,
ouais,
il y a eu Shakespeare, Jules César.
Jules César.
Qu'est-ce qui fait qu'on peut devenir ami d'une comédienne quand on est metteur en scène?
On était amis avant.
Ah.
Non.
On est amis depuis la maternelle.
Ouais, quasi. Mais donc c'est parce qu'on était amis qu'on a fait L'Image, qui était un travail d'amis, un
ça,
peu
c'était
expérimental,
le Beckett,
avec,
ouais.
Avec Anne et Damien Jallet. On avait envie d'être ensemble, et qu'on a créé à Dublin, qu'on a repris aussi après en Chine, entre autres. Et puis Jules César, c'est le côté très, c'était assez drôle parce que on a des goûts communs de films et plein de choses, de films américains, entre autres, de choses comme ça. Et je reprenais Jules César en France, et la comédienne qui interprétait les deux rôles féminins du spectacle, qui était un spectacle en anglais que j'avais fait aux États-Unis, était enceinte. Donc j'ai proposé à Anne, de la remplacer. Donc ça veut dire qu'elle aurait été la seule française au milieu d'une escouade d'acteurs américains, et donc elle s'est mise bravement à l'anglais, plus la chorégraphie, plus ça. Elle a énormément travaillé pour rejoindre cette équipe, et on a fait une tournée en France de Jules César avec Anne, et c'était aussi un moyen d'être ensemble. Et puis après on s'est retrouvés, là c'était avec Pascal Rambert dans Architecture, mais le travail, je sais pas si c'est le travail qui nous liait, mais c'était déjà là en fait, et c'est ça qui a fait le travail possible. Et en tout cas avec Anne, ça a été deux expériences très particulières, que ce soit l'image ou Jules César, c'était pas du tout des propositions classiques et conventionnelles, mais on essaye aussi de remplir des... Je savais quand Jules César, je lui dis, elle va être trop contente, elle va enfin pouvoir être une actrice américaine. Donc c'est des choses comme ça un peu.
Racontez-nous alors ce plaisir, ou pas d'ailleurs, Anne Brochet, évoqué par Arthur Nosician.
Non mais Arthur, il m'a permis de vivre une expérience ultime qui est de jouer Shakespeare en anglais.
Eh oui.
C'est cosmique.
C'est très rare, oui.
Oh, c'est cosmique. Ah ouais, c'était extraordinaire, donc j'aurais pu m'arrêter là.
Oh, tu parles. Et puis avec des super partenaires, enfin il y avait quelque chose de... Ils étaient très, très attentifs,
très
aussi
joueurs,
avec toi.
Très joueurs, très travailleurs.
Accueillants.
Très accueillants. Mmh. C'était merveilleux. C'était merveilleux. Et on est... Moi j'aime assez... je suis très travailleuse, mais j'aime quand même m'amuser.
Et c'est possible au théâtre ?
Oui.
Et avec Arthur Nosician ?
Oui.
Il y a cette part de jeu dans les répétitions, dans le travail ? J.E.U.
Il est sérieux, Arthur. Hein.
Ah oui, mais
faut filer droit.
C'est aussi. Faut filer droit.
Ouais, ouais, ouais. Mais...
Il a son petit caractère.
Non, c'est un travailleur. Il aime qu'on soit concentré, il aime qu'on bosse. Ouais. Moi, j'aime ça aussi. Mais
on
c'est
rigole,
bien.
Quand même.
On aime bien déraper.
Ouais.
Gentiment.
Hein. Oui, mais je vous vois très bien. Je vous imagine très bien déraper, Anne Brochet. On va écouter un peu de musique. On a choisi la jeune chanteuse franco-suisse Yoa sur France Inter. Elle chante Matcha Queen.
Elle boit du matcha avec ses copines. Elle pense aux garçons qui lui font du mal. Mélange le yoga et les aspirines. Elle vit sa vie comme si c'était un drame. Elle sait plus pourquoi le soir elle déprime. Avant de plonger dans un rêve subliminal. Mais du spa rassure son cœur. Avec ses copines, oublie les garçons qui lui font du mal. Un peu à l'étroit dans sa paire de jeans. Passer des heures à éviter les drames. Elle met des tonnes de crème sur son visage. Oh mon Dieu, comme c'est criminel de prendre de l'âge. Pas d'amour en vue dans son paysage, mais seulement quelques traumatismes. ses copines et voit ce garçon qui lui fait du mal.
C'était Yoa Matcha Queen sur France Inter.
France Inter. Le grand atelier. Vincent Josse.
Je l'ai découvert tout à fait par hasard sur Instagram. Il sévit aussi sur TikTok. Grosso modo, c'est son pseudo, propose des balades, essentiellement à Paris, mais pas seulement. Il filme des scènes du quotidien, des scènes insolites, un feu piéton qui a la tête à l'envers, des canettes de bière regroupées dans un coin. Il en fait un tout petit court-métrage et en voix off, il traduit de façon très poétique ce que ces scènes lui inspirent. Il invente, il imagine, c'est d'une infinie délicatesse, c'est beau et c'est doux. Il faut absolument, si vous ne le connaissez pas, que vous alliez voir Grosso Modo. Grosso Modo s'appelle en fait Paul Joubert, il m'a autorisé à dire son patronyme et il est en ligne avec nous. Bonjour Paul.
Bonjour Vincent.
J'ai raison de dire que vous n'êtes pas seulement un promeneur et un piéton de Paris. Là, par exemple, vous êtes à Genève.
Et tout à fait, je vous appelle actuellement de Genève, où j'ai été gentiment invité pour tout simplement me balader et faire une prochaine balade suisse.
Il y a toujours quelque chose d'insolite là où vous vous trouvez ?
Oui, c'est... La ville, par définition, accueille forcément de l'éphémère, et c'est surtout ce que je recherche dans les balades. Donc il y a toujours de la vie à filmer et des formules à trouver.
De l'éphémère, de l'insolite, du bizarre.
Oui. On va totalement.
Oui, je vous en prie, il y a un petit décalage.
Oui, pardon. Mais effectivement, l'idée est de capter l'éphémère ou l'insolite, et à partir de là, en fait, me mettre à travailler sur l'écriture, c'est-à-dire que j'ai ma vidéothèque, et à partir de là, eh bien, je me mets derrière l'ordinateur et je cherche des formules poétiques, oniriques, ou parfois plutôt rigolotes.
On va essayer de comprendre ce que vous faites, c'est difficile parce que c'est très visuel, alors je précise, mais on peut tout dire à la radio, on peut tout expliquer à la radio. Je précise que ce qu'on voit dans ce que vous allez nous dire là, c'est un pigeon qui dévore un gâteau, de la fumée qui sort d'une bouche d'égout, un planisphère abandonné dans la rue et une horloge posée contre une barrière.
En me baladant à Paris, j'ai vu un pigeon qui fêtait son anniversaire. Né en juillet, tous ses amis étaient déjà en vacances. Tant pis, s'est-il dit, ça lui fera plus de gâteaux pour lui. Bienvenue dans les balades grosso modo, les balades de mon imagination. Au détour d'une rue, de la fumée sortait d'une bouche d'égout. Les tortues ninja étaient visiblement en train de cuire leur fameuse pizza au feu de bois. Un peu plus loin, j'ai vu une carte du monde dans un coin. C'était celle d'un petit garçon qui, découvrant l'ampleur du réchauffement climatique, l'avait mise dehors en espérant que la pluie qui s'annonçait sur Paris arrose la terre entière. Le long d'un boulevard, j'ai vu le temps faire une pause dans sa course. Je lui ai demandé si tout allait bien. Il m'a répondu de prendre de l'avance, car il finirait dans tous les cas par me rattraper.
Vous avez pensé à mettre ça sur les réseaux, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a moins d'un an, et vous avez un succès fou, je crois que vous avez plus de 300 000 abonnés.
Oui, tout à fait, effectivement, le compte grosso modo existe depuis à peine un an, et les balades grosso modo en tant que telles existent depuis, je crois, 8 ou 9 mois. Et oui, effectivement, à partir du moment où j'ai commencé mes balades poétiques, en fait, ouais, la notoriété est arrivée et il y a eu quand même pas mal de followers qui sont arrivés. C'était un vrai plaisir.
On sent que vous aimez écrire.
Oui, à vrai dire, l'écriture est un exercice que j'apprécie, que j'aime énormément depuis une bonne quinzaine d'années.
Et vous allez sortir un roman, il paraît.
Tout à fait. Le 2 mai prochain sortira mon premier roman publié, en tout cas, puisque j'en ai écrit d'autres. Et donc le titre sera Tuer le temps et ce sera édité aux éditions de l'Archipel.
Avec des pigeons, des horloges, des cartes du monde observées à Paris et ailleurs.
Alors non, cette fois-ci, ce sera une balade dans mon imagination, plutôt qu'une balade poétique et surtout une balade dans différentes époques.
La ville, Anne Brochet, qui surprend. Dont on observe des bizarreries. J'imagine que quand vous vous promeniez à 15 ans à Paris pour aller chercher vos flamencos, vous aviez aussi des visions comme ça. Vous étonniez de choses.
Oui, je comprends tout à fait. J'ai l'impression, je ne suis pas, grosso modo, pas encore, mais je vois exactement de quoi il est. Je perçois sa sensibilité, sa façon de regarder la ville. Ouais.
Il y a un petit peu de, je veux pas faire mon savant, Paul, mais il y a un petit peu de Ponge, de Francis Ponge, dans votre façon d'aimer raconter et de regarder les objets, de regarder la réalité finalement et de la commenter.
Oui.
Lui, il pouvait parler d'un savon sur 200 pages.
Oui, tout à fait. Oui, oui. Ben, effectivement, la démarche de Ponge, enfin, en tout cas, mon conte peut se rapprocher de la démarche de Ponge dans la mesure où on essaye de extraordinariser l'ordinaire, en fait, un petit peu réenchanter le quotidien où, à partir d'effectivement une canette abandonnée dans un coin, on en fait une véritable poésie. Mmh.
Ben c'est très bien, bravo, je vous donne un bon point, je ne sais pas pourquoi, mais c'est simplement que j'ai déjà pris en quelques jours l'habitude d'aller regarder ce que vous faites. Alors, vous le faites une fois par semaine, mais il y en a déjà pas mal. Ça dure environ une minute, hein, vos balades sur TikTok et Instagram, grosso modo.
C'est ça, exactement. Tous les dimanches, une balade, souvent à Paris, parfois dans d'autres villes, et on est sur, oui, entre une minute et une minute trente.
Et vous avez commencé à aller chez des écrivains en regardant leur bureau et en cherchant ce qu'il y a d'insolite et de bizarre dans leur atelier, finalement.
Oui, tout à fait. Bah, ça, c'était une manière d'adapter les balades à un environnement strictement littéraire, dans la mesure où, forcément, j'aime beaucoup la littérature. Et donc, ça m'a permis, effectivement, de rencontrer de grands écrivains. Et figurez-vous qu'il y en a d'autres qui arrivent.
Est-ce que Anne Brochet fait partie de vos projets ?
Alors, pas que je sache, dans la mesure où je travaille avec la maison de Albin Michel. Mais ben qui oui. sait ?
Eh bien, elle est chez Albin Michel.
Ah, bah, écoutez, formidable.
Mais voilà, le rendez-vous est pris. Ce sera donc demain à quelle heure?
Je vais préparer mon objet.
Oui, elle va préparer ses petits objets. Elle en a beaucoup quand vous lirez l'armoire de vie. Vous verrez peut-être des choses que vous retrouverez si vous allez chez elle. Merci, Paul. Merci beaucoup et bonne suite à vous.
Merci beaucoup.
Je me tourne vers votre ami metteur en scène Arthur Nosiciel. Arthur, vous montez Molière, vous montez Shakespeare, mais vous avez toujours ou Coltès en France, aux États-Unis. Vous bougez beaucoup, vous n'hésitez pas à quitter l'Hexagone, mais vous avez aussi une appétence pour la littérature contemporaine. J'ai l'impression que vous regardez ce qui se fait, ce qui se passe. Une Marie d'Arieusec, elle peut vous intéresser. Ça peut devenir du théâtre alors que c'est pas prévu. Je pense à Tom est mort. Et puis ensuite, elle vous écrit un projet. Yannick Enel. Écrivain magnifique, contemporain. Ça peut devenir Yann Karski, un superbe spectacle sur scène. Vous guettez un peu ce qui se produit et ce qui peut faire, comme on dit, théâtre.
Alors je lis sans me dire est-ce que ça pourrait faire théâtre. Je lis et j'aime bien. J'ai toujours plus lu d'ailleurs de choses de mon époque contemporaine que classique d'ailleurs. Et après, alors effectivement, il y a des rendez-vous, quoi. Il y a des rencontres. C'est des histoires d'un seul coup. Moi, il y a un moment où, si je pense à Karski, en commençant à lire, je me dis pas je vais en faire un spectacle. Mais quand j'ai fini le livre, j'avais l'impression qu'Yann Karski allait se matérialiser devant moi et me dire je suis Yann Karski. Ouais. Donc il fallait donner un espace à ce fantôme.
Il y avait un appel.
Ouais. Mais peut-être que des gens comme Marie d'Arieusec, Yannick Enel ou d'autres que j'aime beaucoup, peuvent amener quelque chose du théâtre parce qu'ils amènent quelque chose justement, ils appellent le fantôme. C'est des gens qui sont très reliés à quelque chose qui n'est pas de l'ordre du visible, hein, à ses présences, absences, dont le théâtre peut être le lieu, le vecteur, le lieu d'incarnation. Donc c'est plus à cet endroit-là, peut-être. Mais j'aime beaucoup lire les romans et voir après, oui, éventuellement, ce que ça peut devenir.
Je voudrais qu'on entende un peu la plume d'Anne Brochet dans l'armoire de vie. Est-ce que vous voulez bien, je vais vous passer mon bouquin, parce que vous n'êtes pas venu avec, et... Vous allez lire un extrait qui, je sais pas, qui peut faire une minute trente, le petit que vous aviez repéré tout à l'heure.
D'accord.
Ça vous fait plaisir, hein ? Nous, ça nous fait plaisir.
Oui, comme ça, je vais repréciser mon flou de loulou.
Oui.
Je vais pouvoir corriger ma bévue. Pour mon bac, que j'ai eu avec la mention passable, papa et maman m'offrent le parfum Charlie. Dans la publicité, une jeune femme avance à grands pas vers son destin et affirme que c'est Charlie qui l'a révélé au monde. Moi aussi, je veux être dévoilée. Je mets la fragrance sur mon cou en chantant l'hymne à Charlie. J'ai osé annoncer à mes parents que je voulais étudier à Paris. Je ne leur dis pas que je veux être cette femme que les hommes cherchent dans les rues de la capitale et qui fuit quand on voudrait l'aborder. C'est exactement ce qui se joue dans le spot publicitaire du parfum Loulou. Sur un plateau de cinéma, un garçon invisible appelle Loulou, qui est une actrice. Elle a fait du bon boulot et elle mérite bien une petite pause. Loulou est rêveuse, elle est belle, souriante, mélancolique et concentrée sur son métier. Elle entend à peine le jeune homme qui l'appelle. « Moi, je veux qu'on se retourne sur moi et comme Loulou, je n'y prêterai pas attention. Je serai une femme venue d'ailleurs, yeux bleus de chat et cheveux noirs. Je marcherai à grands pas dans mes chaussures de flamenco et parfumée au Mustela ou au Charlie ou à Loulou. Un jour l'un, un jour l'autre. De toute façon, je serai changeante, mystérieuse, insaisissable, versatile. Je rendrai fou les chercheurs de Loulou. »
Merci beaucoup, Anne Brochet, de la lecture et de votre présence pour ce très beau livre, L'Armoire de vie, qui peut-être sera dit un jour au TNB, en Théâtre fait, National de Mode. Il nous reste à peu près 3 secondes. Non, mais, alors, je vous remercie, Arthur.
Merci à vous.
Oui ou non, peut-être une lecture, une rencontre au théâtre. Oui. Voilà, on mettra les dates sur la page du Grand Atelier. Merci à vous. Karen Day a réalisé cette émission, Cléo Grispert et Louise Lemoine m'ont aidé à la préparer, Valentine Chédebois a programmé la musique, il y avait à la technique Laurent Baudouin. Vous pouvez réécouter l'émission sur franceinter.fr et nous rejoindre sur Facebook, Instagram et Twitter. Après le journal, c'est Charline Vanhoenacker sur France Inter, c'est le grand dimanche soir. Bonsoir Charline. Qui sont vos invités ?
Bonsoir Vincent Josse. Eh bien, Albin de la Simone nous offre 2 lives, un en première heure, un en deuxième, voilà. Et la metteuse en scène Léna Bréban sera avec nous pour un très très beau spectacle.
Sur Colette ?
Musical Colette, vous l'avez vu ?
Oui.
Ah voilà, et c'est très bien, on est d'accord.
Bon, et vous embrasserez Albin de la Simone de la part d'Arthur Nosiciel.
Très bien, ce sera transmis.
Bonne émission.
Merci.